pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et le reste de la semaine en rediffusion sur toute une série de radios associatives locales qu'on en profite pour remercier et saluer. L'émission d'aujourd'hui, donc vendredi 3 juillet 2026, n'est pas en direct, on n'est pas dans les studios, elle a été pré-enregistrée, et donc je ne vous donne pas le numéro du direct pour nous joindre, mais si vous voulez nous contacter en dehors de cette émission, vous pouvez nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer des messages ou nous contacter sur certaines messageries au 07 53 10 31 95 et vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet. Vous retrouverez à la fois toutes les émissions, des lettres de personnes enfermées et de leurs proches et des textes que L'Envolée a pu écrire au cours des dernières années. Donc c'est l'envolée avec deux e.net. Vous pouvez aussi nous écrire des mails à contact@l'envolée toujours avec deux e.net et nous retrouver aussi sur X à @l'envolée, sur Facebook à l'envolée journal et sur Instagram à l'envolée journal. Donc voilà pour les contacts. Je vais maintenant rappeler brièvement l'envolée, qu'est-ce que c'est. Donc l'envolée, c'est cette émission de radio et un journal qui, depuis 2001, relaie la parole des personnes enfermées et de leurs proches, que ce soit des personnes enfermées dans des prisons, donc des maisons d'arrêt ou des maisons centrales, mais aussi des personnes enfermées dans des prisons pour sans-papiers, c'est-à-dire les centres de rétention administrative, ou encore des personnes enfermées en hôpitaux psychiatriques. Mais on se fait aussi l'écho des luttes au dehors contre l'extension de l'enfermement aussi en dehors des murs des prisons. Et donc, en dialoguant, en échangeant avec ces personnes enfermées et leurs proches, on élabore une critique, une réflexion de cette société qui a besoin des prisons pour tenir. Et on se place comme ainsi dans une histoire encore plus ancienne, d'autres émissions anticarcérales, d'autres journaux anticarcéraux, bien sûr aussi le comité d'action des prisonniers, donc de collectifs de prisonniers qui se sont regroupés pour faire entendre leur voix, s'organiser politiquement et lutter contre le sort qui leur était fait. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir pas mal, commencer par une assez longue lecture. Donc, on a plusieurs fois parlé à cette antenne du livre de Mauben qui est sorti au printemps, qui s'appelle donc Mange ta peine, les recettes du prisonnier à l'isolement. On avait consacré notamment une émission car suite à la publication de ce livre, Mauben a été transféré donc de façon punitive au quartier de lutte contre la criminalité organisée, au QLCO de Condé-sur-Sarthe qui venait d'ouvrir. Et donc, ce livre, c'est avant tout un livre donc de recettes pour des personnes à l'isolement, mais aussi pour des personnes en galère ou avec des moyens réduits à l'extérieur. Et on a déjà lu plusieurs fois des recettes extraites de ce livre, mais aujourd'hui, on voulait lire en long l'introduction qui a aussi fortement déplu à l'administration pénitentiaire, car dans cette introduction, Mauben revient sur les années de lutte au sein des quartiers d'isolement dans les années 2000. Donc, à un moment où il y avait plusieurs dizaines de prisonniers qui étaient baladés de quartier d'isolement, de quartier maison centrale en quartier maison centrale, et qui arrivaient malgré tout, malgré toutes les tentatives de l'administration pénitentiaire de briser les solidarités et les modes d'organisation collective, qui parvenaient à lutter et à obtenir des aménagements de leurs conditions, et notamment un assouplissement de l'isolement, ou la possibilité d'avoir plus de contacts les uns avec les autres ou avec l'extérieur. Donc c'est très important parce que cette introduction, elle rappelle que vous faites beaucoup des aménagements, enfin la plupart des aménagements à l'intérieur sont obtenus par des luttes des prisonniers et des prisonnières. Et on l'a dit aussi à cette antenne, l'ouverture des QLCO à Vendin, puis à Condé, et puis bientôt encore au moins quatre nouvelles tôles cette année, est un recul général. Et elles ont aussi, ces endroits, ces nouveaux quartiers ultra-sécuritaires ont été pensés comme ça. C'est un recul sur tous les acquis de ces luttes de prisonniers des 20 dernières années. C'est vraiment le but de l'administration pénitentiaire, c'est d'effacer 20 années de lutte et aussi de verrouiller légalement ces nouveaux quartiers pour empêcher que de nouveau les prisonniers et prisonnières puissent gratter des choses par les luttes ou par des recours juridiques. Donc on va vous lire cette introduction à plusieurs voix et donc qui revient sur ces luttes, mais qui revient aussi sur la place de, parce que c'est quand même l'objet du bouquin, qui revient sur la place de la nourriture quand on est enfermé, que ce soit à la fois comme façon de résister, enfin c'est quand même ce que Mauben dit dans son livre, c'est que se cuisiner un truc, c'est aussi une façon de résister à l'horreur de la prison, c'est une façon de se faire du bien à soi, mais que c'est aussi parfois une façon de lutter collectivement parce qu'il y a des cantines partagées, des choses comme ça, et parce que la nourriture est une vraie part de la punition que sont les lieux d'enfermement. On a beaucoup parlé en centre de rétention administrative, il y a très souvent des révoltes qui partent du caractère infect de la nourriture qui est servie par les cuisines des CRA. Et donc, on va donc commencer par cette lecture qui est assez longue, qui va durer 20-25 minutes, qui sera entrecoupée de petits moments musicaux pour permettre un peu de se reposer, de se reposer un peu l'attention. Puis après, on vous diffusera un enregistrement de Gabriel Muesca, qui est un militant basque qui a été incarcéré pendant 17 années, dont deux, je crois, à l'isolement, et qui a enregistré un message, en fait, dans le cadre d'une présentation d'un bouquin, un autre bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle La fureur du lâche, chronique de l'isolement, donc qui a été écrit par Fernando Garcia Jodra, qui est un autre militant basque qui a aussi connu 19 années de tôle et en fait quasiment 19 années entières à l'isolement, donc ce qu'il appelle l'épicentre de la cruauté. lui dans les prisons espagnoles, donc dans les quartiers d'isolement des prisons espagnoles. Et donc voilà, c'est un bouquin qui revient sur cette expérience de 17 ans dans les quartiers d'isolement en Espagne. Et à l'occasion donc d'une rencontre pour présenter ce nouveau livre, Gabriel Muesca s'est enregistré pour raconter lui aussi, enfin pour parler de l'isolement, saluer la sortie de ce bouquin et dire à quel point en fait c'est important d'entendre ces voix de personnes qui subissent l'isolement et qui arrivent malgré tout à l'intérieur, malgré enfin, les conditions terribles qui leur sont faites, à lutter individuellement et collectivement contre le sort qui leur est fait. Et d'ailleurs, on en profite pour rappeler, on l'a dit dans les émissions précédentes du mois dernier, mais qu'en ce moment, il y a un mouvement de lutte qui est en cours au sein du QLCO de Condé-sur-Sarthe, où les prisonniers arrivent à communiquer et à s'organiser pour demander au moins que les matons ouvertement nazis soient dégagés, mais aussi un assouplissement des conditions de parloir et un accès plus grand à la promenade et aux activités. Et aussi, dans le même temps, les proches, pareil, de prisonniers du QLCO de Condé se mobilisent également en ce moment pour aussi obtenir une amélioration des conditions de parloir qui sont absolument épouvantables et dont on avait parlé assez longuement dans l'émission d'il y a 2 semaines, donc que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et enfin, sur la dernière partie de l'émission, on repassera un interview qui avait été réalisé par la Courte Échelle dans le cadre d'un week-end anticarcéral à Marseille l'année dernière, et où un ancien prisonnier longue peine revient sur les luttes dans les années 80-90 contre les QHS, les quartiers de haute sécurité à l'époque, et le début des quartiers d'isolement. Et voilà, pour nous, c'est important de mettre tout ça bout à bout, c'est-à-dire les luttes contre les QHS et les quartiers d'isolement, enfin les QHS et les quartiers d'isolement dans les années 80-90, les luttes dans les QI dans les années 2000 et aujourd'hui les luttes contre les QLCO qui sont en train de commencer à Condé-sur-Sarthe. Et donc après le morceau là qu'on va entendre tout de suite notre camarade Rature, on va commencer, comme je le disais, avec la lecture de l'introduction du livre de Mauben, Mange ta peine, recette d'un prisonnier à l'isolement. Et du coup, j'en profite pour envoyer plein de force et de courage aux prisonniers dans les QLCO de Vendin et Condé, et également à leurs proches et à tous ceux qui se bagarrent, et une grosse pensée à toutes les personnes enfermées qui subissent de plein fouet les canicules à répétition que déjà dehors nous font suffoquer. Donc on n'imagine même pas à quel point c'est l'horreur à l'intérieur des cellules avec des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, des plexiglas, pas de courant d'air, enfin les blocs de béton que sont les prisons. Bref, c'est invivable et bien sûr personne n'en parle dehors. On préfère parler de comment subit, enfin des effets sur les animaux. Voilà, c'est dire à quel point on s'en fout du sort qui est fait aux prisonniers. On sait qu'il y a, enfin voilà, que c'est terrible et du coup plein de force à toutes les personnes enfermées pour l'été caniculaire qui a déjà commencé. Voilà, force, courage et détermination à tous les prisonniers et toutes les prisonnières et à leurs proches. Et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
Sales histoires, tellement de fois où je m'en trouve par terre. Si tu menaces, ne me loupe pas. Tellement tenace, je craque de toutes parts. Je ne sens plus les coups dans ma colère. Tellement tenace, craque de toutes parts. Vainement, je m'acharne, puis le coup part. Je suis la connasse, ne l'oublie pas. Hélas, c'est lâche, ne l'oublie pas. J'ai voulu être sage, mériter mes images, bien appris les leçons. J'ai voulu être sage, mais une fois dans vos cages, j'ai brûlé vos prisons. Est-ce que je crois encore en mon meilleur? Des crates qui méritent que des coups. Je suis pas naïf, j'ai fait mon trou ici. Là que nos rêves m'inspirent du dégoût. Parce qu'apparemment, faut qu'on les mérite. Pas les mêmes rêves qui coulent dans nos veines. Les vôtres nous maintiennent cloués au sol. Bien qu'on partage les mêmes chaînes aux pieds, rechercherai toujours à prendre mon envol.
Ouais, je comprends la haine.
décide, risque de perdre. Car le camp des gagnants pue toujours la merde. La gloire de nos victoires nous fait perdre la tête. Misant, je l'étais aussi, victime à mon insu. J'avais de grands principes qui m'ont permis de tenir. La haine comme seule issue. Misant, je l'étais aussi. Misant, je l'étais aussi. Misant, je l'étais aussi. Mais la haine, ma compagne maléfique, a pris le dessus et les drames prolifèrent. Je peux pas reset. Et mes amis mecs sont peut-être mes amis meufs. Et mes alliés sont en fait mes ennemis. Alors je nuance, je déborde de votre bande. Je m'efforce de tendre vers moins de souffrance. Me traîner dans la boue, c'est mon environnement. Falloir creuser profond trou pour ne plus m'entendre. Est-ce que je crois encore en mon meilleur? Est-ce que je crois encore en monde meilleur? Vos manières, mes cœurs, forcément je m'écarte. Le rang de l'appareil, c'est un leurre. Jamais ça s'arrête. Vivre dans la peur, ressens mon mal-être et meurs à ton tour. Je veux pas faire pareil, non. Je fais parfois pareil, mais j'aimerais faire autrement. Autrement que la haine et la vengeance. Besoin d'aide à plusieurs, besoin de sens.
Manger sa peine. Par Mauben. L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. André Gide. J'ai passé 10 années de maison centrale et 11 années en régime d'isolement. Pour y survivre, j'ai occupé mon temps à apprendre, à développer des savoir-faire, notamment la cuisine. Au quartier d'isolement, les actes créatifs les plus simples peuvent avoir un impact profond sur nous-mêmes. Au fil des ans, j'ai accumulé des recettes, des trucs et astuces pour cuisiner dans des conditions extrêmes. J'ai décidé d'en faire un livre avec l'espoir d'inspirer et d'apporter un moyen de surmonter les obstacles par la créativité et la solidarité. Si c'est toi qui domines ta peine, tu peux passer un bon moment, malgré la difficulté. Mais si tu ne te prends pas en main, ta peine, tu la manges en pleine tête. En prison, manger équilibré est essentiel à la santé, mais surtout au moral. Ces recettes sont un moyen de bien manger, même avec des moyens vraiment limités, en récupérant notamment les légumes de la gamelle pour améliorer les repas. La gamelle, c'est le repas distribué en cellule 2 fois par jour aux prisonniers et prisonnières par l'administration pénitentiaire. Mes recettes sont gourmandes, équilibrées et faciles à réaliser et accessibles à tous et toutes. Utiliser les ingrédients comme les couleurs de la palette d'un peintre pour créer sa toile est mon parti pris. L'art, peu importe où l'on se trouve isolé, dans une geôle ou au sommet de la liberté, permet de découvrir le monde, l'autre et soi-même. Ces modestes recettes sont la poésie de mon quotidien que je veux principalement partager avec les personnes qui vivent seules, à l'écart. Dans la cellule du quartier d'isolement d'où j'ai écrit ces recettes, je pensais à tous ceux et celles qui sont isolés. La cuisine est pour moi un moyen d'expression et de connexion avec des gens qui sont, comme moi, à l'isolement, du pire endroit au meilleur projet de liberté. Si vous êtes en camping-car ou dans un van face à la mer, partout où il n'y a pas de four, ces recettes sont aussi faites pour vous, afin de bien manger, simplement. Il vous suffit pour les réaliser d'une plaque de cuisson, d'une casserole, d'une poêle et d'un couvercle. Tous les prisonniers et toutes les prisonnières de France ont accès aux ingrédients de mes recettes puisque mon statut de détenu particulièrement signalé, DPS, est celui où on a le droit au moins de matériel pour cuisiner. La majorité de mes recettes permettent l'improvisation car les denrées ne nous sont livrées que 10 jours après le passage de la commande. Je laisse quand c'est possible le choix des épices, des huiles. J'ai diminué les doses de sucre et de gras parce qu'au quartier d'isolement, il y a des personnes qui ne bougent presque pas. J'aimerais que ce livre contribue à combattre les idées préconçues liées à la prison et à briser les stéréotypes souvent associés à ceux et celles qui s'y trouvent. Dehors, le plus souvent, on ne peut s'imaginer que les personnes détenues ont du goût, des envies et des idées.
Une vie à l'isolement. La première fois que je suis rentré en prison, j'étais mineur, mais je n'y suis pas resté longtemps. Avec les années, je me suis rendu compte de ce que je nomme une certaine programmation à l'échec. Dans le quartier d'où je viens, on est 6 000 habitants, il n'y a aucune famille qui n'a pas au moins un gamin en tôle. Parfois, il y en a un qui s'en sort bien, et les autres sont en tôle. Parmi ceux qui sortent de prison, beaucoup sont traumatisés et finissent en psychiatrie. Les autres restent figés, chez McDo. Je suis véritablement tombé à l'âge de 22 ans. Je me suis fait arrêter à Nancy. J'étais en moto, les flics m'ont tamponné. Le juge a demandé mon placement à l'isolement direct. À l'époque, quand le placement se faisait à la demande du juge, il ne pouvait durer que 15 jours. La mesure était renouvelable une fois. Quand c'était à l'initiative de la pénitentiaire, le placement était de 3 mois, renouvelable une fois aussi. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et les juges peuvent te garder durant toute la durée de l'instruction à l'isolement. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir été jugé, tu peux passer des années à l'isolement. Je venais juste de sortir de l'isolement quand j'ai préparé ma première tentative d'évasion de la prison de Nanterre. Les surveillants ont découvert du matériel dans ma cellule et j'ai été transféré à Fresnes, où j'ai immédiatement été remis à l'isolement. Dès que je suis retourné en détention normale, j'ai fait une nouvelle tentative d'évasion. C'était en 2001, j'avais 25 ans. Après ça, je ne suis plus sorti de l'isolement. J'y ai passé 6 ans en tout pendant cette première peine, dont la moitié au mitard. Dans toutes les prisons, quartiers d'isolement et quartiers disciplinaires sont dans la même aile. Et ce sont les mêmes agents qui gèrent les deux. C'est difficile de ne pas voir que la mise à l'isolement n'est rien d'autre qu'une punition qui ne dit pas son nom, mais qui est gérée comme telle et ressentie comme telle. L'isolement, c'est se retrouver seul dans 9 mètres carrés quand tu enlèves la douche et les meubles, la circulation dans la cellule se réduit en réalité à 3 mètres carrés. La table, le lit et l'armoire sont scellés au sol par mesure d'ordre et de sécurité, MOS. L'administration justifie tout avec cette mesure. Ces agents n'ont que ces lettres à la bouche, MOS. En règle générale, on peut sortir une heure le matin et une heure l'après-midi. Il faut choisir entre le sport, la promenade ou la bibliothèque, quand il y en a une. Dans certaines prisons, comme à Rouen, la promenade est limitée à une heure l'après-midi. Et à l'inverse, mais c'est exceptionnel, à Bourg-en-Bresse, je pouvais rester 2 heures en promenade, le matin et ressortir l'après-midi. Donc un isolé est enfermé au mieux 21 heures sur 24 en cellule, et en général 22 heures sur 24. Mais si tu es lucide, tu sais que c'est un enfermement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, parce que quand tu sors dans ce qu'on appelle une promenade, tu te retrouves dans une cour qui fait à peine 3 fois la taille de ta cellule, et tu ne vois pas le ciel tellement la cour est grillagée. Quand tu vas au sport, c'est pareil. La salle de sport est aussi une cellule. À l'isolement, tu ne sors nulle part en fait. C'est toujours une cellule dans laquelle tu es toujours tout seul. Seul physiquement, mais aussi dans ta tête, dans tes réflexions. La recherche a démontré qu'après un mois d'isolement, l'impact sur la santé psychique est irréversible. Le quartier d'isolement, c'est ce qu'on appelle de la torture blanche. C'est fait pour éliminer les gens. Tout y est organisé pour que personne n'échange avec toi. Dans mon cas, il n'y a souvent personne dans les cellules voisines. Pas la moindre possibilité de discuter à la fenêtre. En fonction des personnes qui gèrent le quartier d'isolement de telle ou telle prison, on t'appuie plus ou moins sur la tête. On cherche à te faire perdre tes repères. Prenons l'exemple de la promenade. Il y a un certain nombre de quartiers d'isolement où quand tu demandes à aller en promenade, tu ne sais pas à quelle heure ils vont venir te chercher. Ils peuvent venir à 7h ou bien à 11h du matin. Tu dois être toujours prêt dans l'attente que la porte s'ouvre. Prépare-toi, c'est la promenade. Tu as juste le temps qu'ils ouvrent et qu'ils enfilent leurs gants pour être prêt. Tu dois donc organiser ta journée sans savoir à quelle heure tu feras ceci ou cela. J'ai remarqué que dans ces conditions, au bout d'un moment, les 3/4 des prisonniers ne sortent plus en promenade. Ça les chamboule trop. Ça les rend fous de ne pas pouvoir prévoir. À Fleury-Mérogis, ou la santé par exemple, il n'y a pas d'heure fixe. Le matin, tu demandes la promenade, ils viennent te chercher quand ils veulent. À la longue, plus grand monde ne demande à y aller. À l'inverse, dans les quartiers d'isolement où la promenade est tous les jours à heure fixe, il y a beaucoup plus de gars qui sortent et ça leur fait du bien. On peut encore prendre l'exemple des fouilles. Pour sortir en promenade, les surveillants doivent nous fouiller. Mais là où certains palpent à la va-vite, d'autres mettent 10 minutes à fouiller jusqu'à l'élastique du pantalon. Dans certaines prisons, comme à Bois d'Arcy, les prisonniers subissent une fouille à nu avant et après la promenade. Et c'est un seul mec qui décide de ça, le chef du quartier d'isolement. En bref, la prison, c'est le royaume de l'arbitraire, et au quartier d'isolement, c'est exacerbé parce que c'est la prison dans la prison. Tu es seul face au surveillant, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Pendant toutes ces années, en plus d'être à l'isolement, j'ai toujours eu le statut de détenu particulièrement signalé. Tous les ans, le ministère, sur avis des directions pénitentiaires, inscrit au répertoire DPS tous les prisonniers qui sont désignés par l'administration pénitentiaire comme susceptibles de troubler l'ordre des établissements, notamment ceux qui ont tenté ou réussi une évasion. Avec mon avocat, nous avons fait des recours chaque année depuis 5 ans pour que j'en sois radié. Mais rien ne change. En 2025, je n'ai toujours pas la réponse pour le premier recours de 2021. DPS, concrètement, ça veut dire qu'il y a toujours 2 agents et 1 gradé dès que la porte de la cellule est ouverte, contrairement à la norme qui est d'un seul surveillant. Ça veut dire fouille à nu systématique après les visites famille et l'avocat. Ça veut dire rotation de cellule tous les 3 mois, quand c'est pas une fois par mois comme à Liancourt. Je remonte de promenade et je découvre qu'ils m'ont changé de cellule et déplacé mes affaires. Ça veut aussi dire impossibilité de travailler, refus de toutes les demandes de permission employeur, refus des sorties sportives ou culturelles, même accompagné de surveillants, même avec accord des SPIP, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. Quand tu es transféré d'une prison à une autre, tu l'apprends au dernier moment. Ils viennent, ils te réveillent et ils t'amènent ailleurs. Une fois, ils ne m'ont même pas laissé m'habiller. J'ai été transféré en caleçon et en chaussettes. Une autre fois, je suis resté en short et claquettes pendant 3 jours. Ils ne m'ont rien donné d'autre et j'ai dû attendre mon premier parloir pour avoir des affaires. Tu ne fais pas toi-même ton pactage. Tes affaires ne sont pas toujours là à ton arrivée. Il y en a pas mal qui se perdent en chemin. Un mixeur, des DVD, des jeux, des vêtements. Perdus.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître.
Face à l'isolement, autodiscipline et création. Je suis sorti de prison en conditionnel en 2012 et je suis retombé en 2017. Retour au QI. Pendant ma première peine, j'avais encore le mental, j'étais plus jeune, je l'ai mieux supporté. Mais avec cette nouvelle peine, c'est devenu très dur. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on essayait de me noyer. Pour tenir bon, j'ai eu besoin d'avoir des projets. La création était devenue indispensable à ma survie. Je me suis mis à beaucoup dessiner. Puis, en 2019, les surveillants sont venus et m'ont pris ma peinture par mesure d'ordre et de sécurité. MOS. Je n'avais plus droit à rien, pas même à un feutre. J'ai alors commencé à dessiner au bic. Mais comme j'aime bien peindre aussi, je me suis mis à chercher avec quoi remplacer la peinture. J'ai fait des essais avec de la betterave, c'était pas mal. Mais quelques jours après, il y avait des moisissures qui apparaissaient sur mes dessins. Alors j'ai essayé au café. Et là, ça a bien marché. Je bois plutôt du thé d'ordinaire, mais depuis je me suis mis à boire du café, je dessine avec le fond de ma tasse. Je peins d'abord les zones claires et je rajoute un tout petit peu de café en poudre dans la tasse pour pouvoir peindre les zones foncées. C'est comme ça que j'ai peint le dessin de couverture de ce livre. Je dessine souvent des rhinocéros, car c'est un animal qui fait écho à mon parcours de vie. Il incarne une forme d'infinie liberté pour moi, une force tranquille, qui ne va jamais attaquer si elle n'est pas attaquée. C'est un animal végétarien, fonceur et puissant, qui n'a aucun prédateur si ce n'est l'homme. Il est en voie d'extinction. Sur les 6000 individus qui restaient en 2020, 2000 ont été braconnés pendant la crise du Covid. C'est avec cette nouvelle peine que je me suis mis à beaucoup cuisiner. Et la cuisine est devenue petit à petit un véritable moyen d'expression pour moi. Je faisais des recettes, mais je ne pouvais que très rarement les partager avec d'autres. Je me suis dit qu'un livre serait le moyen de remédier à ce manque, de créer de la solidarité dans l'épreuve avec toutes les personnes qui sont comme moi à l'isolement. J'ai vu ce projet comme une petite peinture et j'ai travaillé sur les recettes pendant 3 ans. Pour ne pas perdre pied et garder la tête sur les épaules quand on est un isolé, il faut avoir de la discipline et des rituels. Ma journée type est donc très rythmée. Je me lève à 5 heures, je fais des étirements, je bois un thé, j'aère, je fais mon lit et un petit coup de ménage. Ensuite, je fais mon yoga et je déjeune. À 7 heures, ouverture des portes. Là, je demande toujours la promenade. En général, je l'ai tout de suite. Je vais courir pendant toute l'heure de la promenade. Parfois, les surveillants sont occupés, alors ils ne viennent pas me chercher, et ça peut durer 2 heures. Mais que cela dure 1 heure ou 2, quand je lève les yeux, je ne vois pas le ciel. Il y a un grillage, des barreaux, encore un grillage et un barbelé. Retour en cellule. Si la douche est en cellule, pas de problème, je peux me doucher direct. Mais dans toutes les vieilles prisons, la douche n'est pas en cellule. Il faut donc, là encore, demander aux surveillants. Et là encore, c'est à son bon vouloir. Ensuite, je lis. Quand les 2 agents et le gradé, MOS, donc mesure d'ordre et de sécurité, oblige, arrivent avec la gamelle, je vois que ce que je peux y prendre pour le cuisiner à ma façon. Je leur laisse le reste. Comme la gamelle arrive très tôt, vers 11h15, cela me permet de manger à midi. L'après-midi peut varier, mais je me fixe toujours un programme. Si je suis dans une prison où l'on a droit à une seconde promenade, je la demande. S'il y a une bibliothèque, je demande à y aller. Le soir, ils passent à 18h pour la gamelle. De nouveau, je prends ce que je peux recuisiner à ma façon. Je mange, puis j'écoute la radio, je dessine, je révise ou je bricole. Je ne suis pas trop télé, car je suis resté des années sans télé à l'isolement. Je la regarde uniquement si un programme précis m'intéresse. Un film de mon époque, les années 90, ou des documentaires et des reportages. Comme beaucoup de prisonniers à l'isolement, je regarde pas mal de reportages animaliers. C'est comme ça que je suis incollable sur les animaux les plus rapides sur Terre, dans l'air ou dans l'eau, les plus lourds, les plus petits. Ici, tu n'as plus aucun contact avec des animaux. Alors quand il y a une mouche ou une araignée dans ta cellule, tu scotches dessus aussi, comme dans un reportage. Et pour finir la journée, je médite un peu et je me couche tôt, jamais après 23 heures.
Jusqu'au début des années 2000, il était strictement interdit de cuisiner au QI. Nous n'avions droit à aucun matériel. Ni les plaques chauffantes, ni les frigos n'étaient autorisés. L'alimentaire était quant à lui très bas de gamme, comme dans les films. Des louches, d'une bouillie impossible à identifier. Malgré cette interdiction, on se cuisinait des trucs vite faits sur des chauffes qu'on fabriquait. De temps à autre, on se la faisait saisir, mais on en refabriquait aussi sec. En 2004, alors que j'étais au QI de Strasbourg, la direction a saisi une de mes chauffes et l'a envoyée au musée pénitentiaire, tellement elle était surprenante. J'avais pris 2 boîtes de conserve avec une résistance de thermoplongeur enroulée autour. Le thermoplongeur, on pouvait le cantiner. Je l'appelais ma turbo. L'eau bouillait en 2 minutes. À cette époque, je cuisinais surtout des pâtes avec une petite sauce au thon. C'est vite fait, donc ça économise la chauffe et ce n'est pas cher. Je diluais une cuillère de concentré de tomate et de la harissa dans un bol d'eau chaude. Je faisais revenir des oignons émincés dans une poêle. Puis je rajoutais le bol d'eau chaude et le thon, ça chauffait 10 minutes et voilà. Entre 2001 et 2005, il y a eu de grandes luttes collectives au sein des QI. À l'époque, On était une centaine de mecs dans l'écuie. Nous étions tous là pour des histoires d'arrachage, évasion, ou de suspicion d'arrachage. Il y avait aussi deux ou trois « islamistes », entre guillemets, les premiers. On était isolés, mais on se croisait, entre guillemets, tous à un moment ou un autre, à force de tourner de QI en QI dans les prisons de France. On ne restait jamais plus de 3 mois au même endroit. MOS, mesure d'ordre et de sécurité. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. Se croiser, c'est un grand mot, mais on s'organisait en s'écrivant ou en parlant par la fenêtre. En arrivant dans un nouveau QI, on demandait à la première porte en passant « Y'a qui là ?» Et le gars répondait qui il était, qui était là aussi. Les surveillants ne pouvaient rien faire, ils n'allaient pas nous bâillonner. Et ensuite, quand il y avait quelque chose à revendiquer, on se le disait. On pouvait communiquer par courrier, et à l'époque, ça ne posait pas de problème à la pénitentiaire. Ça a duré comme ça pendant 3 ou 4 ans. Puis la paix s'est aperçue que ça nous permettait de nous organiser et d'être unis. Elle nous a alors interdit de communiquer par écrit. Durant toute cette période, on a mené différentes luttes. À chaque fois, ça se passait à peu près comme ça. On commençait toujours par aller voir le surveillant pour lui exposer le problème qu'on avait. Là, il y avait plusieurs cas de figure. Le plus souvent, ça se passait sans violence, le surveillant faisait remonter l'information et on pouvait discuter et négocier avec la direction et le problème était résolu. Mais quand on avait affaire à une sourde oreille, on s'organisait pour tout bloquer. Ça voulait dire que le soir, on bouchait l'œilleton qui sert au surveillant à regarder à l'intérieur de la cellule, ce qui les oblige à appeler le gradé et à s'équiper, c'est-à-dire mettre du matériel anti-émeute, pour ouvrir la porte. On bloquait aussi les promenades. Ça veut dire qu'ils nous descendaient 4 par 4, chacun dans une petite promenade et au moment de remonter, on refusait. Ils mettaient des fois 3 heures à nous rentrer en cellule, où ils appelaient les ERIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité. Et là, il y avait bagarre. Bref, le QI était mis hors service, il ne pouvait plus fonctionner normalement. Les surveillants étaient obligés de faire des comptes rendus d'incidents, CRI, tous les jours. Ça remontait aux directions interrégionales et le directeur de la tôle se faisait taper sur les doigts. Et nous, on était envoyés au mitard après s'être fait tabasser. On n'avait pas grand-chose à perdre, alors on a fait ça pendant des années. Et on a fini par obtenir pas mal de choses, notamment des plaques chauffantes et des frigos. À Bois d'Arcy, encore aujourd'hui, les détenus n'ont pas le droit d'avoir des plaques de cuisson en détention normale, mais à l'isolement, si. C'est paradoxal, mais c'est simplement le fruit de nos luttes des années 2000. À Fresnes, par contre, le frigo n'est toujours pas autorisé au QI. Nous avons aussi obtenu des salles de sport, c'est-à-dire une cellule avec dedans une barre fixe, un vélo ou un tapis de course. Parfois les deux. On a obtenu le droit de prendre des douches après le sport et non plus seulement 2 à 3 fois par semaine. On a obtenu la télé, pour ceux qui n'ont pas d'argent. Mieux, on a obtenu la lumière, parce qu'il n'y en avait toujours pas, il n'y en avait pas toujours au QI, ou bien il n'y avait pas l'interrupteur et il fallait donc attendre que le surveillant passe pour qu'il l'allume. On a aussi obtenu de vraies bibliothèques. Avant, on devait se contenter du chariot du mitard, c'est-à-dire une 15aine de livres sans intérêt, aux pages arrachées ou remplies de mots que les gars se sont fait passer. J'ai ainsi lu plusieurs fois la biographie de François Ier. J'ai aussi lu « Bel ami » de Maupassant, une version avec pages manquantes qui m'a quand même permis d'apprécier la dénonciation du lien entre politique et journaliste. À part ça, il y avait essentiellement des San Antonio et quelques BD. Nos familles peuvent aussi nous envoyer des livres, mais il faut d'abord obtenir l'autorisation du chef de détention et du chef du QI. D'ailleurs, les livres considérés comme « trop politiques » entre guillemets sont refusés par MOS. Les prisonniers n'ont pas le droit de s'organiser. Tout regroupement d'idées ou de foule est interdit, jusqu'à s'habiller pareil. Si 4 mecs s'habillent pareil et tournent ensemble à la promenade, la paix les considère comme une bande et ils sont changés d'étage direct pour ne plus être ensemble. Des gars qui tournent simplement trop ensemble aussi sont séparés pour ce motif. Aujourd'hui, les luttes en prison sont le plus souvent individuelles et les gars vont parfois à l'extrême. Les grèves de la faim sont devenues quelque chose de très courant. Dans tous les mitards et QI où je suis récemment passée, les grèves de la faim étaient quasi quotidiennes et j'ai été surpris par le nombre de détenus et de profils différents qui y ont recours. J'ai vu des gens y laisser des plumes. Chacun lutte comme il peut. Pour ma part, je n'en ai jamais fait. Refuser de s'alimenter, c'est se détruire, alors qu'à mon sens, en prison, on a besoin de toutes ses forces pour ne pas flancher. Par ailleurs, les directions et le personnel sont très habitués à ce moyen de protestation. Ils passent et te lâchent un banal « Vous êtes en danger, il faut vous nourrir », point barre. Les médecins de la prison n'ont pas de grosse marge de manœuvre. Au mieux, ils peuvent demander la sortie du mitard ou du QI pour incompatibilité de l'état de santé avec la mesure punitive. Malgré cela, le plus souvent, les mecs ne sortent pas. Il y a peut-être un mec sur 5000 qui sort du QI avec une grève de la faim. La plupart terminent à l'hôpital avec une nutrition de force. Il y a parfois des grèves de la faim collectives. Dans ce cas, la paix réagit fort. Les gars sont tout de suite transférés et on leur colle des comptes rendus d'incidents pour mouvement collectif, sans préciser que c'était une grève de la faim. Cela transforme donc les revendications en fautes disciplinaires. La paix maquille le réel. Si aujourd'hui les luttes sont plus rares ou plus individuelles, c'est sans doute que la population carcérale a changé, qu'il y a moins d'entraide. L'individualisation et la division règnent désormais, en prison comme dehors. Je m'en suis rendu compte quand je suis sortie, en conditionnel, entre 2012 et 2017. Au QI tout seul, j'étais dans ma bulle, à croire que dehors, le monde était meilleur.
La nourriture comme punition. Durant ces années d'isolement et de lutte contre ce régime de torture blanche, j'ai souvent été transféré de prison en prison, et très souvent envoyé au mitard. Au mitard, on crève la dalle, on est rationné, il faut croire que ça fait partie de la punition. C'est les seules fois de ma vie où j'ai rêvé de nourriture. Un jour, en 2001, au mitard de la santé, j'ai été jusqu'à faire un hold-up de pain. Au moment où le surveillant a ouvert la porte, j'ai bondi pour me servir sur le chariot. J'ai volé 4 ou 5 pains et je suis retourné dans ma cellule. J'ai arraché le pain des autres tellement j'avais faim, mais j'espérais qu'on fasse tout ça et que ça change. Si les matons avaient voulu les récupérer, il y aurait eu bagarre. J'étais prêt. Le chef a rigolé et ça s'est arrêté là. À cette époque, au mitard de Fleury, on avait une bassine comme assiette. Ils jetaient tout dedans et ils te servaient ça. Tout était mélangé. Alors, l'entrée, le plat, le fruit et le pain. Maintenant, ce n'est plus comme ça. C'est une assiette avec des compartiments où les différents composants du repas sont séparés les uns des autres. C'est mieux. Même sans être au mitard, en détention normale, la nourriture peut être utilisée comme un moyen de punir. Dans certaines prisons, la gamelle est posée devant les cellules, à même le sol, alors que c'est très sale par terre. Nos cantines, les achats extérieurs, sont balancés dans les cellules. Les boîtes de conserve roulent sous le lit et s'abîment. C'est toujours le cas à Fleury, par exemple. Heureusement, il y a aussi des prisons comme Annelin, Liancourt, Moulins, où un sac bien conditionné est déposé proprement devant la porte. C'est la Sodexo qui tient le marché dans la plupart des prisons. Quand c'est Jepsa, comme au Mans, c'est mieux car les légumes sont bio. Ils sont de saison, ils ont beaucoup plus de goût. Ici à Moulins, c'est des plateaux Sodexo. C'est souvent immangeable. On est beaucoup de détenus à ne pas les prendre, donc ça part à la poubelle. Sur le plateau, je ne prends que le pain, les légumes et les desserts. Ça fait beaucoup de gâchis. Pourtant, ça ne change pas. Pire, on nous refuse le rab, alors qu'on sait qu'il y en a tout le temps. Par contre, on peut s'inscrire en anti-gaspi. Ça veut dire que le soir, on prend juste un petit fromage de 30 grammes, un petit gâteau et un fruit à la place d'un plateau. Ça évite de jeter, c'est sûr, mais c'est aussi un moyen pour l'administration pénitentiaire de faire des économies. C'est autant de plateaux qu'ils ne payent pas. Il y a encore des prisons où on mange à la louche, à l'ancienne. C'est mieux parce que ça permet de mieux gérer les quantités. Si t'as faim, l'oxy, le prisonnier qui sert la gamelle, peut t'en donner un peu plus, alors qu'avec les barquettes, les proportions sont petites. Il n'y a rien à faire. Quand la nourriture vient de dehors. Pour cuisiner, les quelques éléments que je prends de la gamelle ne suffisent pas. Il faut pouvoir se procurer d'autres denrées. Pour ça, il y a les cantines avec lesquelles on peut acheter des aliments sur des listes fournies par l'administration pénitentiaire. Mais pour cantiner, il faut avoir de l'argent, car c'est très cher. Sur les 300 euros que je reçois de ma compagne par mois, il y en a 150 qui vont pour le téléphone et 150 dans les cantines. C'est serré comme budget. Heureusement que je sais jongler. Par exemple, je n'achète pas de gâteaux, je les fais. Si tu ne transformes pas toi-même, tu n'as pas assez pour tenir le mois. Même si tu es en centrale, c'est moins cher qu'en maison d'arrêt ou en centre de détention. Les prix varient du simple au double, d'une prison à une autre. Ici à Moulins, c'est la centrale de France où les cantines sont les moins chères. Par exemple, le tube de dentifrice ici, c'est 1,05€. C'est 3,05€ à Fleury. Du coup, les mecs qui savent qu'ils partent d'ici, ils font des courses avant. Mais on ne peut pas cantiner tout ce dont on aurait besoin. En fonction des prisons, il y a des choses interdites qui diffèrent. Donc, si tu arrives avec tes affaires de la prison précédente, ils peuvent les confisquer parce que dans celle-là, ce n'est pas un produit autorisé ou disponible en cantine. Le téléphone est aussi un sacré business. 40€ pour téléphoner 5 heures sur un portable ou 10 heures sur un fixe. Si je veux téléphoner une demi-heure par jour, ce que ça me coûte au mois, c'est de la folie. Dans pas mal de quartiers d'isolement, le téléphone est en cellule. Et quand il n'y est pas, comme à Fleury par exemple, tu es resté à 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. C'est tout. À Noël, nos familles peuvent nous apporter 5 kilos de denrées alimentaires. Je demande à ce qu'on m'apporte des choses qui coûtent soit très cher en cantine, soit carrément qui sont impossibles à avoir. Des amandes, des noix de cajou, des noix du Brésil, de la muscade. Et je les garde longtemps, pendant plusieurs mois. Je les utilise pour faire des gâteaux, des tagines. Je demande des sachets d'infusion aussi. C'est très léger. On peut m'en ramener 200. Il y a des gens qui demandent des plats tout faits. J'ai même vu entrer des hamburgers. C'est mieux si les aliments sont mis dans des sacs hermétiques à zip. C'est plus léger, et sur 5 kilos, ça compte. Ça permet aussi de les utiliser ensuite en cuisson. On peut récupérer pas mal d'emballage de la gamelle pour s'en servir comme tupperware. Du coup, pas besoin d'en rentrer à Noël. C'est aussi possible d'en cantiner, mais ce genre de matériel coûte très cher. Alors faut se débrouiller autrement. Il y a aussi de la nourriture qui rentre par les parloirs. Principalement de la viande, des gâteaux, des sandwichs, des trucs à consommer tout de suite, car on ne peut pas les remonter en cellule. Pendant longtemps, on nous laissait un peu respirer pendant les parloirs. Ça mangeait, ça fumait, ça circulait librement entre les box et la grande salle. Nos familles pouvaient ramener des viennoiseries. Mais récemment, les parloirs de maison centrale ont bien changé. Ils ressemblent de plus en plus à des parloirs de maison d'arrêt. Maintenant, tu dois même appeler pour aller aux toilettes. Depuis le Covid, il n'y a même plus de machine à café.
Partager. À l'isolement, la communication passe principalement par la fenêtre, quand il y a quelqu'un dans la cellule d'à côté. La plupart du temps, les cellules à côté de la mienne étaient vides. Mais dès qu'il y avait quelqu'un, j'en profitais pour discuter, pour jouer même. Une fois, on a réussi à jouer aux échecs avec un voisin. Il nous fallait un jeu chacun, je m'en étais fabriqué un avec des bouts de carton, et par la fenêtre, on se criait quelles pièces on déplaçait sur quelle case. Et quand il était possible de fabriquer un yo-yo, on pouvait partager de la nourriture. Des briques coupées en deux, des gâteaux roulés en boudin, des pâtes en sauce, du riz, de tout. Ce partage, c'est de la solidarité. C'est un moyen de transcender les murs. Pour faire un yo-yo, il faut un sac plastique, du scotch, de la ficelle et un poids, genre savon. Il faut couper des bouts de sacs plastiques et de ficelles et les accrocher les uns aux autres en fonction de la fenêtre à atteindre et attendre que le vent les pousse jusqu'à la cellule visée. Si c'est une fenêtre de laquelle on peut sortir la main, alors il faut lester la ficelle avec un petit poids, genre un bout de savon, tourner et jeter en visant la fenêtre. Le type d'à côté attrape la ficelle et l'accroche et les deux cellules sont reliées. Ça fait une tyrolienne. Pour que la nourriture passe les grilles, il faut la rouler un peu plus fin et plus long qu'un nem, la mettre dans du plastique et scotcher. Dans certaines prisons, comme à La Santé et à Bois d'Arcy, c'est impossible de passer quoi que ce soit, même pas le petit doigt. Il y a du plexi aux fenêtres, devant et derrière les grilles. En août 2024, je suis enfin sortie de l'isolement. Depuis, je suis en détention normale dans une centrale, mais j'ai l'impression d'être en semi-liberté. La socialisation, ça change tout. Elle est indispensable au mental et à la survie. On s'en rend compte quand on en est privé. Ici, avec quelques détenus, on cuisine les uns pour les autres. Je cuisine pour 4 personnes, je donne un plat à chacun, et ces 4 personnes font pareil. Ça me fait 4 plats différents. Dans la centrale où je suis actuellement, à Moulins, il n'y a pas de gourbi. Le gourbi dans une maison centrale, c'est un local où on peut se retrouver à quelques-uns pour cuisiner, boire un café, faire une belote, jouer aux échecs. On y ramène même une télé si on veut regarder un truc à plusieurs. C'est une petite pièce qui fait office de lieu de sociabilité, un endroit où on se déconnecte un peu de la prison, où l'on fait abstraction des murs et où on se concentre sur le moment qu'on partage. Les gourbis ont été gagnés par les luttes des prisonniers dans les années 70. Dans certaines prisons, ils ont été officialisés par l'administration pénitentiaire et sont appelés les « sociaux ». La différence, c'est que dans les sociaux, c'est l'administration pénitentiaire qui équipe la pièce avec du matériel pour cuisiner ou pour faire un peu de sport. Au moment de la crise du Covid, tous ces lieux ont été fermés dans les centrales et depuis, il y a beaucoup de prisons où ils n'ont pas été réouverts. À Saint-Martin-de-Ré, le gourbi est de nouveau ouvert. Récemment, j'ai reçu un message des potes qui étaient au gourbi et qui cuisinaient une de mes recettes en pensant à moi. C'est ça le but de ce livre, faire cuisiner les gars parce que les recettes sont simples et que cuisiner ça pousse à partager. Sans ces lieux de sociabilité, les gens restent dans leurs cellules, ils ne vivent plus que la nuit et quand il y a des contacts, c'est uniquement pour taxer ou pour râler si on ne partage rien ensemble. Comme il n'y a plus de gourbi à Moulins, certains surveillants nous laissent parfois cuisiner dans la buanderie. J'y descends ma plaque ou mon four et je fais des pizzas pour quelques personnes. Je fais le ménage après et ne laisse aucune trace de notre usage. Aujourd'hui, pas de gâteau. On a récemment fêté les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. C'est fou qu'une personne sur deux soit favorable au rétablissement de la peine de mort. On est vraiment au début de la fin de l'espèce. Mais est-ce pire que ce système haineux, tracé et maquillé de l'entrée à la sortie ? Il n'y a rien pour le faire évoluer, bien au contraire. Tout est fait pour t'ôter toute responsabilité, t'infantiliser, voire te tuer. Les réels fondements de cet enfermement ne sont que la vengeance, la punition, l'expiation. La peine n'a aucun sens. Elle te transforme soit en fauve violent, soit en bête totalement anéantie et à ta sortie, difficile d'échapper à la récidive ou à la clochardisation, voire au suicide. Et ce dernier ne sera pas comptabilisé. Exorciser l'accumulation de toutes ces souffrances est impossible. Tu ressens une destruction aussi sûre que ce que faisait la guillotine, de façon moins rapide. Mais n'est-ce pas là justement toute la barbarie de l'alternative qui a remplacé cette funeste machine ? Une société qui se défend avec des sanctions pires que les actes commis seront à son tour coupables du pire. Alors, même si la peine de mort est la plus grande injustice, la plus grande atteinte, bien plus grave que le monstre qu'elle prétend hypocritement punir, puisque raisonnée, administrative et admise, après 2 décennies de torture, dont une à l'isolement, je ne l'aperçois que comme un mauvais quart d'heure à passer. Le choix est vite fait pour moi. Ceci dit, non sans l'écrou bien aiguisé.
We'll be right back. Bonsoir à toutes et à tous.
Je voulais vous saluer. Je ne peux pas être parmi vous pour des raisons professionnelles, mais je suis de tout cœur et de toute pensée avec vous. Nous sommes réunis autour d'un livre. Ce livre écrit par Fernando, un homme qui a passé un quart de siècle. C'est pas rien, un quart de siècle dans la vie d'un homme, ou d'une femme évidemment. Un quart de siècle derrière les barreaux. Et de ses 24-25 ans, 19 ans à l'isolement total. Je ne connais pas ce militant, mais lorsque j'ai été invité à m'exprimer autour de ce livre, je n'ai pas pu dire non, bien évidemment. Je n'ai pas pu répondre défavorablement à cette invitation, à parler devant vous parce que ce livre témoigne d'une réalité qui dépasse évidemment l'histoire d'un homme, de ce Fernando. Mais aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui sont à l'isolement. Et qu'il est de notre devoir aujourd'hui, au travers de ce livre, de témoigner et de dénoncer cette mesure barbare, appliquée à des hommes et des femmes, ici et ailleurs. J'ai eu l'expérience de la prison, comme certains d'entre vous le savent, pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, j'ai vécu 3 ans à l'isolement total. Donc, à comparer à Fernando, j'ai une petite expérience de cette situation extrême de l'isolement. Mais 25 ans après ma sortie de prison, les souvenirs sont toujours là de cette période d'isolement. Et je voudrais vous en témoigner pendant quelques instants. J'ai ce souvenir attaché à mon cœur, à mon âme, qui est celui de m'être trouvé dans la peau d'un animal, je pèse mes mots. Je me suis retrouvé au bout de 6-8 mois d'isolement total, dans une situation où je n'étais même plus capable de lire une page de livre, de me concentrer dessus. Pas même lorsque je louais le poste de télévision, même de me concentrer sur un programme de télévision. La seule possibilité que j'avais, c'était de me mettre debout dans ma cellule et de faire 6 pas sur 6, comme un lion en cage. J'étais un lion en cage. Je finissais par bégayer au bout de quelques mois d'isolement total. C'est être traité comme un animal, ne plus être respecté dans sa dignité humaine. J'ai le souvenir d'avoir lu, il y a quelques années de ça, un rapport fait par des universitaires belges, un rapport très épais, évidemment, comme tous les rapports, qui pouvait se résumer en 2 lignes. Ces chercheurs disaient, passez 5 ans de prison, pas l'isolement, 5 ans de prison, vous sortez dans la société, vous êtes étranger au fonctionnement de la société. Vous avez perdu les critères, les normes sociales. Au bout de 5 ans, c'est déjà une méconnaissance de la société dans laquelle vous rentrez. Et ce même rapport disait, passez 10 ans derrière les barreaux, vous êtes étranger à vous-même. C'est-à-dire que passez 10 ans derrière les barreaux, vous vous trouvez dans des situations où vous ne savez pas quelles seront vos propres réactions face à certaines situations que va vous imposer la vie. Voilà, pour la prison normale. Imaginez ce que cela peut être pour un homme ou pour une femme qui a vécu la prison plus évidemment dans la déshumanisation, dans ce process qui vous amène à passer du statut d'humain à animal. Fernando a probablement, et ça ne fait aucun doute au travers de la lecture de ce livre, a gardé sa pleine humanité. Il a gardé sa pleine humanité probablement pour une raison que certains d'entre vous dans la salle connaissent bien, ceux qui ont connu, le bonheur et la difficulté d'avoir un engagement politique fort, au travers de la lutte armée, par exemple, qui ont vécu, qui ont été portés par un idéal. L'idéal dehors comme dedans, et dedans y compris à l'isolement, ça vous permet de garder votre verticalité. Et Fernando en est l'exemple suprême. 19 ans d'isolement, et toujours debout, et en capacité de témoigner, et avec la capacité et la volonté que son témoignage, ce que vous faites, vous, ce soir, puisse irradier la société, que nous soyons maximum d'hommes et de femmes à dire non à ces traitements inhumains et dégradants. Dire que ceux et celles qui prennent de telles mesures, qui, de par leur signature, condamnent à la mort lente des hommes et des femmes, sont des ennemis de l'humanité. Des ennemis de l'humanité. Je finirai par un souvenir que j'ai relaté il y a de cela quelques mois, lorsque j'étais appelé à témoigner aux Assises spéciales de Paris. C'était à l'été 2025. Il s'agissait d'un kidnapping en prison en France fait par quelques islamistes. J'ai témoigné en leur faveur parce qu'ils vivaient des conditions de détention qui sont celles qu'a vécu Fernando. Et j'ai dit au magistrat que lorsque j'étais à l'isolement, il m'arrivait de me réveiller la nuit avec un cauchemar, le même. Je voyais le juge d'instruction qui m'avait envoyé à l'isolement baigné dans son sang. Baigné dans son sang. Voilà ce à quoi mène l'isolement total. Voilà. Merci pour votre attention. Merci d'être les relais, que vous soyez toutes et tous les relais de ceux qui disent non. Non à l'isolement total. Non à l'isolement total. Agour.
Oh, All right, that's enough.
Alors, Yves, donc on va discuter un peu de tes moments d'incarcération et puis des longs moments d'isolement, QHS, quartier d'isolement, etc. Toi, tes premières incarcérations, donc c'est aux alentours des années 68-69.
69.
Et puis après, tu vas faire une longue période d'incarcération de 80 à 93.
13.
Pour replacer avec l'histoire des QHS, des quartiers d'isolement, les QHS ont été créés donc sous Giscard en 75 et puis jusqu'à 82 où Badinter supprime les QHS, création des quartiers d'isolement, donc voilà, qui change pas grand chose, on change de nom, on en reparlera. Et tu disais notamment par exemple que même après 82, tu vois, ça a continué, 83, etc. La suppression réelle des QHS en tant que telle, voilà, a pas été véritablement supprimée. Est-ce que toi, donc, tu arrives, ton expérience d'isolement en QHS, elle démarre au Baumettes en 80. Tu peux raconter un peu les caractéristiques aussi de ces QHS, de ces quartiers dits quartiers haute sécurité.
Alors, dans ces quartiers de haute sécurité, donc le fait est que tu avais par exemple le baflan en béton qui était bon du béton. Tu avais la table qui était en béton mais qui était fixée. Ça restait du béton. Tu n'avais pas droit à tes affaires. On te mettait en groguet. Tu n'avais pas droit à tes affaires personnelles, contrairement aux détenus qui sont prévenus en bâtiment. Donc, à partir du moment où tu étais en groguet, et tu avais tes affaires personnelles, y compris les cantines, ce que tu pouvais cantiner, dans un placard à l'extérieur du QHS. Donc, si tu peux faire chaque fois que tu voulais, je sais pas moi, si tu voulais boire un ricoré, si tu voulais prendre un truc que tu avais acheté, il fallait appeler le surveillant et pour se faire ouvrir la porte, pour lui demander ce que tu voulais, et qu'il te donnait ça au compte-gouttes. Alors tu prends, évidemment, il se faisait un malin plaisir à ne pas entendre si tu l'appelais, et ainsi de suite. Ce qui fait que moi, d'emblée, ayant très vite compris ce système-là, je me suis privé de tout. Pour ne pas, parce que pour moi, je pratiquais le principe du refus, de me soumettre, de baisser la tête, y compris devant un surveillant. C'est pour ça que quand on dit les surveillants, gentils, les pas gentils, les surveillants, aujourd'hui, ils essaient de leur mettre des cagoules, c'est pas pour rien.
Au Baumettes, tu t'es révolté aussi, tout en étant au QHS?
Oui, tout en étant au QHS. Parce que chaque fois que j'ai faussé compagnie, parce qu'on vient, quand on vient te chercher pour quelques mouvements que ce soit, que tu dois faire, que ce soit psychiatrique, psychologue, tout ce que tu veux, ou avocat, on vient te chercher, il y a un brigadier et deux gardiens qui viennent te chercher. Et quand on te fait traverser les coursives pour t'amener à l'endroit où on doit t'amener, on fait rentrer les gens. C'est-à-dire que tu ne dois voir personne, en gros. Voilà, tu ne dois voir personne. Donc, moi, j'ai réussi à leur fausser compagnie plus d'une fois. Parce que tu n'es pas enchaîné, tu vois, ils t'amènent comme ça. Bon, après, ils hésitaient à me mettre les chaînes aux pieds. Hein. Mais chaque fois que je leur ai faussé compagnie, d'une rapidité, bon, je faisais plein de sports au QHS, j'avais que ça. Hein. Donc, j'étais comme ça, j'étais en pleine forme, on va dire, au moins au niveau physique, je me maintenais. Et donc, chaque fois que je leur faisais compagnie, ça aboutissait à une révolte. C'est-à-dire qu'un coup, je montais par les gouttières du QHS, je me suis retrouvé sur les toits du QHS. Une autre fois, à l'avocat, je suis monté sur les toits parce que j'avais observé qu'il y avait une lucarne où c'est que... donc j'avais poussé la table à l'avocat, il était mort de peur, le pauvre. Bon, et j'avais dit, non, mais toi, hein, Et donc j'étais monté par la lucarne, j'avais accédé au toit. Une autre fois, je leur avais faussé compagnie à la hauteur du bâtiment A. Bon, ben, il faut savoir qu'il y avait le bâtiment B, le bâtiment A au bon maître. Et puis ensuite, le greffe, les avocats, tout ça. Bon, donc, à la hauteur du bâtiment A, je leur ai faussé compagnie. Là, j'ai grimpé, parce qu'il y a quatre étages. Hein. Il y a quatre étages. Là, j'ai grimpé à l'extérieur. J'ai grimpé entre les gouttières et les lampadaires. Bon, après, il y a des gens qui m'ont envoyé des draps de leur cellule. Je m'accrochais au drap, je continuais à grimper avec le drap. Bon, je suis monté sur les toits. Après, j'ai réussi à interpeller les gens qui étaient dans des cours pour qu'ils montent, qu'ils m'ont rejoint. Et après, ben, je transigeais avec le procureur la reddition. Alors, chaque fois, je lui disais, je le fais au nom de mes camarades qui m'ont désigné comme porte-parole. Bon, d'où l'anecdote où les procureurs, les machins, me disaient, ouais, mais enfin, vous, on vous choisit toujours comme porte-parole.
Sur les 5 ans à peu près que tu as fait QHS, isolement, etc., puis tu as eu préparé, c'est ce que tu disais, à peu près un an de cachot à chaque fois.
Chaque fois que je faisais compagnie, bon, ben, tu comparais au prétoire, qui est le jugement interne, et quand je comparais au prétoire, ben, c'était 45 jours de cachot, ouais. Et puis 46 jours de cachot, attention. C'est pour ça que là encore, je reviens sur ceux qui disent les gentils matons, pas les gentils matons, non, mais lui il est bien. Moi, ils m'ont pris à coups de lance à incendie, à poil, au fond du cachot, comme ils font aux États-Unis. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein.
Le matin.
Bon, ouais. parce que je me rebellais. Non, parce que je me rebellais. C'est certain. Mais bon.
L'idée en QHS, c'est de faire rencontrer personne. Tu dois absolument rencontrer personne. Tu es dans le bâtiment, c'est ça?
Ouais.
Donc ça fonctionne.
Et personne en cours. C'est-à-dire que tu sors seul en cours de promenade. Tu as droit à une demi-heure de promenade le matin, une demi-heure l'après-midi, mais tu sors seul.
Tu disais aussi, pour te couper les cheveux aussi il y a le côté... Ils veulent à tout prix te raser la tête.
Voilà, ils veulent à tout prix que les gens aient les cheveux très 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 courts sur la tête, et puis surtout qu'ils soient toujours imberbes. Bon, moi, dès 80, dès mon arrestation, par opposition... Moi, j'ai gardé les cheveux longs et j'ai gardé la barbe. Après, par opposition, je vais te donner un autre exemple. Bon, ça, c'était quand tu comparaissais en tribunal ou n'importe quoi. Le treillis est interdit. Moi, j'avais fait rentrer un treillis. Et je mettais le treillis. Je comparaissais, j'arrivais dans le box en treillis. Je leur disais au revoir, messieurs, je ne vous reconnais pas. Enfin, je ne leur disais pas que c'était même pas de cette façon. Des fois, j'étais très insultant. Moi, un jour, j'avais dit au président, mais dites-moi, d'après l'âge que vous avez, vous avez dû juger les résistants pendant la guerre. Alors, évidemment, c'est des choses qui ne leur plaisent pas. Un jour, un procureur, il parlait, tout, bon, ça, c'est avant que je quitte le boxe, quoi. Alors, j'ai dit, mais Manier, tu... Oh, monsieur le président, il emploie le tutoiement. Citoyen Manier, sache que depuis la Révolution française, 1789, je leur faisais un cours d'histoire. Ils étaient malades. Ils ne pouvaient rien dire. J'ai dit citoyen Manier, malade. Et après, je tire ma révérence parce que moi, je ne vous reconnais pas. J'ai dit, je suis rentré dans le box par respect du jury populaire. Mais aujourd'hui, je dis au revoir, parce que vous, les magistrats, je ne vous reconnais pas.
Les parloirs aussi, c'est particulier, aussi, quand tu es en QHS aussi.
Oui et non, dans le sens où c'était particulier à l'époque. À l'époque, il y avait des vitres, hein, il y avait tout ça. Bon, donc, si tu préfères, tu parlais à travers la vitre, à travers l'hygiophone. Bon, non, là, ils te laissaient... Bon, après, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que sinon, ils te coupent tout, hein. Ils te privent de parloirs et tout.
Il y a eu des révoltes, d'ailleurs, sur les parloirs aussi.
Révoltes pour les passoires, moi, ça aussi, c'est moi qui les ai menés au beau maître, pour faire supprimer les hygiophones. Parce que, comme les QHS,
ouais.
La gente matonesque a beaucoup de difficultés à admettre qu'une loi est passée. Donc il gagne encore du temps. Et moi, je me suis battu là aussi pour... j'ai dit non.
Oui.
La loi est passée, vous devez supprimer les hijaphones. Ils avaient trouvé l'option, les matons, de garder le muret. Parce que l'hijaphone repose sur un muret. Donc de garder le muret qui crée une séparation avec ton visiteur. Ah oui, non mais attendez, on n'a pas ci, on n'a pas là. Bon, après je me suis battu pour que je casse les murets, pour avoir un vis-à-vis normal avec les visiteurs. Bon, voilà, bon, si tu préfères toute entrave à la liberté, à un droit d'expression, je me révoltais. Je te donne un exemple, en 84, donc j'étais en QHS. Il y a les premières élections régionales en Corse. Bon, là je me suis battu parce qu'ils ne voulaient pas que je vote. Je dis, je regrette. J'ai dit, en tant que prévenu, on a le droit de vote. On n'est pas jugé, on n'est pas condamné. Donc on a le droit de vote. Donc là, j'avais fait voter et j'avais nommé mon avocat comme représentant pour porter mon bulletin de vote. Donc l'avocat, il est venu, bon, pas que moi, c'est-à-dire mes deux co-inculpés aussi, il est venu les récupérer nos trucs. On a eu droit à la carte électorale. Bon, il avait là, hein. Inutile de te dire qu'il avait là, hein. Parce que tu es obligé... l'administration pénitentiaire, l'administration judiciaire a exigé à avoir ton droit de vote. Et tu peux savoir qu'ils n'étaient pas contents. Hein.
T'as été,
J'utilisais tout ce que je pouvais au niveau des lois existantes et au niveau aussi des lois internationales. Parce que des fois, je disais, oui, mais ça, c'est reconnu national, mais internationalement. Donc, j'ai beaucoup... Bon, tu me diras, J'avais préparé à l'époque, j'étais monté que jusqu'à... C'est pas un examen, c'est... Bon. En droit. Une capacité de droit, tu vois.
Ouais.
Bon, après j'ai arrêté. Mais j'ai arrêté, si tu préfères, au niveau des études, mais j'ai continué à étudier le droit. Que ce soit les codes pénal, codes international, que ce soit...
Tu as été dans des collectifs de lutte, tu as été
à
la SPF, c'était l'association...
Alors la SPF, ça avait été monté...
Ça voulait dire Association Syndicale des Prisonniers...
Association Syndicale des Prisonniers de France. Ça avait été monté par Jacques Gambier, qui avait été incarcéré, qui avait un gros soutien de la Fédération Anarchiste, d'avocats de Fédération Anarchiste, de chanteurs... Bon, moi, je suis rentré, donc évidemment, j'avais contacté Jacques Gambier, j'ai été nommé vice-président, et j'ai commencé à alimenter en prison, au Beaumet, par courrier, par massif, par là, une section. Ils ne pouvaient rien faire. Et le but, ça a été la première action qui a été faite de la SPF, ça a été, nous sommes une association syndicale. Vous ne pouvez pas refuser à un membre syndical d'assister à une assemblée générale. Et on avait organisé à l'époque l'assemblée générale à la rue des Vignoles, ici à Paris. Et donc on disait, il faut à tout prix que chaque militant associatif puisse se rendre à l'assemblée générale. Ça avait posé un drôle de problème de droit. Parce que, alors il disait, oui, mais on ne peut pas, non, mais même si vous m'accompagnez, même si vous m'attachez, vous m'accompagnez, imagine-toi, il faut, bon, ils n'avaient pas accédé, hein, mais bon, on leur avait planté des trucs comme ça, de loi, mais des trucs fabuleux, quoi. Ils étaient malades. Et ils ne pouvaient rien dire, et les avocats relayaient dehors, donc, bon, et à partir de là, a commencé aussi à s'établir les relais, hein, à l'extérieur. Bon, à partir de là, nous sommes restés, bien sûr, en contact avec des anarchistes, tout ça. Et après, bon, ben, dans la suite des combats personnels que j'ai menés, moi, j'ai toutes ces raisons ont fonctionné, quoi, voilà. Donc, il y a eu réseaux, après, il y a eu réseaux qui se sont un peu plus durcis. Parce que, bon, des fois, je disais, oui, ben, vous êtes bien gentils, mais bon...
C'est ce que
j'étais de braves
ouais,
gens, hein.
C'est ce que t'as toujours dit. T'as toujours dit que tu pouvais jamais dire faites comme moi, etc. C'est-à-dire
voilà.
qu'à partir du moment où t'as du soutien, tu vois, et, où tu crées des collectifs, des organisations, etc., où t'es pas seul.
Tu peux pas demander aux citoyens lambda.
Ben oui.
De faire comme toi, sous le prétexte de dire bon, écoute, moi je me bats, tu as qu'à faire pareil. Tu as qu'à faire pareil. Le gars qui n'est pas assisté, le gars qui n'a pas de famille, le gars qui n'a pas de contact, qui n'a pas de machin, tu peux pas. Ou alors c'est toi qui deviens dictateur, là. Moi, je regrette.
Quand les QHS donc ont été supprimés, enfin le nom QHS a été supprimé, il y a eu les quartiers d'isolement.
Oui.
T'as vu une différence?
Non. non, ils ont scié les trucs de la table. Mais bon.
C'est tout.
Le truc du
parloir.
Et puis tu as eu accès à tes affaires, tu as eu accès à ta cantine, tu l'avais dans ta cellule, voilà.
Oui, tu pouvais avoir tes affaires, c'était la seule différence.
Au lieu d'appeler le matin, au lieu de... Tu vois. Donc, ben, à partir de là, j'ai continué. C'est pour ça que, comme on a eu accès à nos propres affaires, c'est pour ça qu'après, j'ai fait rentrer les triers, malgré leur interdiction. Ils voulaient pas que les gens... même les couleurs. Quelque chose qui était kaki, ils le voulaient pas. Et moi, par opposition, bon, je faisais tout l'inverse.
Après, donc, il y a eu pas mal de révoltes. Il y a eu des mouvements importants de lutte contre les QHS aussi à l'extérieur.
Oui.
Toi, tu avais écho de donc Knobel Peace, évidemment, avec son livre QHS.
Oui, mais il était encore dedans, hein.
Oui, il était encore. Ouais. Et
il avait écrit Voleur de poule aussi.
Oui, c'est ça, c'est un de ses livres. Il écrit aussi un livre où il raconte ça aussi, Voleur de poule.
Parce qu'au début, quand il a arrêté, c'était un petit... Là, on revient encore au phénomène social. Bon, il n'y a pas de fatalité.
Oui, il y avait la préface de Foucault dans le bouquin de Knobel Peace, tu vois, qui raconte que depuis le 19e siècle, tu vois, il y a toujours eu cette volonté de faire deux groupes de prisonniers, comme, tu vois, les pauvres types d'un côté, et puis de l'autre, tu vois, les dangereux.
Les méchants.
Voilà, les méchants. Les
bons, les méchants.
Ceux qui résistent, et donc ça permet aussi, on les met en QHS, donc parce que t'es dangereux. Considéré comme dangereux, mais aussi ça explique, on ne va jamais te sortir, parce que tu seras dangereux aussi vis-à-vis de la société, tu seras dangereux dehors, donc tu as cette étiquette de dangereux, à l'intérieur, c'est indéfini, quoi. Tu vois, c'est un enfermement.
Non, et puis en plus, bon, c'est une vaste fumisterie, parce que si tu es dangereux et que tu finis ta peine, donc on lâche un dangereux. Non, ça c'est un phénomène, ils criminalisent les gens. Bon, je dis pas qu'au passage, il n'y a pas des fous furieux, hein. Ça existe aussi, hein. Comme dans toute société, comme dans tout groupe humain, hein. Il y a toujours des gens qui relèvent plus de l'asile psychiatrique,
bien sûr.
Voilà. Mais, quand tu refuses, d'une façon sociale ou d'une façon politique, bon, l'un rejoint l'autre, hein, de toute façon, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Donc on te criminalise. C'est une fumisterie.
Et puis il y a les séquelles que ça entraîne, tu vois, un enfermement dans l'enfermement en plus, tu vois. C'est après.
Avec l'enfermement en plus, bon, tu as des poussées d'adrénaline que, évidemment, tu peux très bien ne plus avoir dehors. Bon, moi, si tu préfères, à travers toutes ces révoltes, et puis à travers, y compris ma libération, j'ai toujours veillé, mais comme je le dis, parce que j'étais encadré, parce que j'ai pu le faire, j'ai toujours veillé à ne pas sortir bourré de haine, parce que c'est pas bon. Si tu sors en bête furieuse, c'est pas bon. C'est pas bon. Demain, tu vas t'accrocher avec quelqu'un, tu vas le tuer alors. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as plus de notion de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ou l'autre alternative, c'est de sortir complètement à plat ventre. Bon, moi, je me suis toujours arrangé j'ai veillé à ne pas sortir fourfurier et ne pas sortir à plat ventre. Mais, ceci dit, tu laisses quand même des plumes. Parce que tu ne mènes pas des combats, même en étant soutenu comme je l'étais, tu ne mènes pas des combats indéfiniment comme ça, sans laisser de plumes, ce n'est pas vrai. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti. Beaucoup de gens me disaient « Ah, tu es bien, hein, tu es bien. » Oui, j'étais bien physiquement, moralement, intellectuellement, j'apparaissais bien. Mais au bout de 2 ans, 3 ans que j'étais dehors, je me suis rendu compte que je venais de passer ces 2, 3 dernières années, c'est-à-dire de suite à ma libération, et que je commettais pas de choses, mais que j'étais pas tranquille, quoi. Je me suis rendu compte que je me suis rendu compte qu'on a laissé des plumes. Et puis encore aujourd'hui, ça avait, même avec le temps passé, par exemple, côté relationnel, j'arrive plus à avoir de relations. Tu vois, si tu préfères, je suis sorti avec des braves filles, c'était pas elles. Mais moi, au bout de 6 mois, ça craquait. Après, je le regrettais, mais...
Oui, oui.
Bon, et puis comme je suis fier, je ne regardais plus en arrière.
Oui, oui, t'arrivais plus à vivre avec quelqu'un, tout simplement.
J'arrivais plus à vivre, à supporter une promiscuité quelconque.
Oui, oui, oui.
Et puis je dis comment ça va, donc, et quand je le décide, mais sinon... C'est pour ça, d'ailleurs, que je vis seul, même en Corse...
Déjà fait, mais je roule un terre. Nos aïeux défoncés, vent zone interdite, ça semble interminable. Je remets ma main dans la veste. Le froid du flash et du tournevis, j'ai toujours ce trou dans la tête. Je suis le meilleur rappeur de la terre. Si je le pense pas, qui va me sortir de la merde? On n'est plus à un exploit près. 2008, je marche en Ernest dans la tête. Je me sens frais. Je sens que je vais monter les marches une par une. 2022, là j'ai plus de lacunes, pas au top, donc j'ai plus d'excuses, la rue nous a câliné, venez à boire, pas à dîner. Après que c'est la monnaie, le vrai but, l'honneur et la répute. Moi je te dis que la rue c'est une vraie pute. Un jour mon gros nez en 4x3, j'entends tiou, tiou, mets ta main devant les yeux et va par là. Je pense à demain devant le sol, je pense à hier devant le micro, je pense à rien quand je vole. Regarde mes yeux quand je rappe, regarde mes yeux quand je parle, regarde mes yeux quand je m'ouvre, le cœur sa mère. Et je jure plus jamais sur la vie de la mienne. On a vu sur la mort puis la césarienne. Vu qu'on part bien trop vite dans le scénario. Je suis dans de beaux draps, on va insister tant qu'il le faudra. On a carotte le petit bourge qui a le ballon. Maintenant que je l'ai, la poisse prend son coup de rein. Oh, sa mère. C'est pas une mauvaise alerte. J'ai goûté toutes les mauvaises nouvelles. Maintenant je prends n'importe laquelle. Encore une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Je suis défoncé dans la peine. Je vois en flou le fond de la rue. Je préfère qu'ils connaissent mon vrai nom. Celui qui parle au fond de mon buste. J'ai pas été très loin dans le vrai monde. Faut que j'avance au bout de la lune. J'ai pas été très loin dans la saison. Eh vas-y, qui nique sa mère, celui-là. C'est aussi la cour des miracles sur la route de la sagesse. Pas le monde de Narnia, derrière porte de la chapelle. Ah bah ouais, je crois que jamais j'arrête. Je crois que jamais j'abandonne. Je crois que jamais je la ferme à la tienne. Si t'as des convictions, c'est nous les boss. Prochaine mauvaise nouvelle, on la crosse. On lui baisse sa grand-mère, on l'arrose. On lui prouve le contraire. Une rose noire sur le torse, allez, arrache ta mère. Encore une mauvaise nouvelle. 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 Encore une mauvaise nouvelle.